que j'invite à s'approcher. Il est accompagné de son épouse Betty. C'est un couple que j'apprécie, comme j'ai déjà dit, beaucoup. Robin est enseignant à la HET Pro, donc durant mes études de théologie, c'était un de mes enseignants. Et il a été pendant de nombreuses années pasteur à l'église de Réveil, notamment à la Chaux-de-Fonds, puis encore ailleurs. C'est un homme passionné, vraiment. Dans tout ce qu'il fait, il est passionné par ce qu'il fait. Et il a une culture générale qui m'a toujours énormément impressionnée. Donc pendant les cours, tout ce qu'il donnait, tout, il a une culture générale qui est impressionnante. Il a une passion tout spéciale pour l'hébreu biblique. Et c'est juste quelque chose qui est assez impressionnant. Quand il travaillait comme pasteur à la Chaux-de-Fonds, il a demandé à un moment donné à son conseil s'ils étaient d'accord qu'ils mettent du temps à part lorsqu'il préparait ses prédications pour prendre le texte et puis le travailler, puis regarder de la langue originale en français pour le traduire, pour avoir, Et le conseil avait accepté. Puis ensuite, dans ses méditations personnelles, pour lui, ce qui lui plaît vraiment, c'est de prendre l'hébreu, la langue, et puis de le traduire en français. Et je vous dis franchement, c'est galère. Moi, j'ai fait 3 ans d'hébreu. Franchement, c'est galère. Je me souviens, en 3e année d'hébreu, on n'était plus que 2 étudiants. Et un jour, Robin nous a fait traduire un texte, mais vraiment quelques versets, ce n'était pas énorme, de l'hébreu en français. Le collègue Michael avait mis 3 heures de temps. Moi, j'ai mis 3 heures et demie de temps pour traduire mes 3-4 versets. Et pour finir, on est allé le voir et on a dit « S'il te plaît, plus jamais !» C'était tellement douloureux. Et bien, lui fait ça par plaisir, parce que ça, il trouve ça génial. Donc voilà, donc, je te donne la parole, Robin. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'être là. C'est un honneur, en tout cas pour moi, de t'avoir. Je vais prier encore pour toi.
Oui,
merci Seigneur pour Robin, merci parce que tu l'as conduit jusqu'ici. Je te demande que tu nous donnes des oreilles ouvertes, un cœur réceptif à ce que tu désires nous partager ce matin. Je te demande que tu donnes la liberté à Robin de pouvoir apporter ce que tu lui as mis sur le cœur, que nous soyons réceptifs. Merci de lui donner cette liberté, qu'il se sente à l'aise au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Amen.
Amen. N'ayez pas peur, je ne parlerai pas en hébreu. On va essayer de parler français. Et je suis aussi très honoré de pouvoir venir parler de la part du Seigneur, de présenter sa parole, de la regarder, de l'entendre surtout. Il ne faut pas oublier que la parole de Dieu, c'est d'abord une parole avant d'être une écriture. Alors bien sûr, l'écriture, on est content de l'avoir, mais Dieu a d'abord parlé. Et c'est quelque chose qui traverse, en fait, dans la culture biblique, la lecture de la Bible, c'est plutôt une lecture à haute voix. Et la Bible est faite pour être lue et entendue. Et puis après, bien sûr, on est content de l'avoir par écrit, hein. Et que, par exemple, quand Paul dit à Timothée « Applique-toi à la lecture de la parole », ce n'est pas la lecture quotidienne, on n'avait pas de Bible à la maison. Et les gens allaient à l'église pour entendre la parole et la mémoriser. Bon, on est très loin de ça tous, hein, pour mémoriser un texte quand on l'entend, mais à l'époque, vous savez, ils avaient beaucoup moins de médias, hein, et ils pouvaient enregistrer le texte, se le rappeler. Alors aujourd'hui, nous allons... Tu voudrais que je présente la HET Pro d'abord? Donc vous n'avez pas besoin de mettre tout de suite le... Ben c'est joli, allez on va dire que c'est joli. Il n'y a pas de problème, je le mets en plein écran, et puis je vous présenterai un peu l'école après. Voilà, ça va être joli comme ça. On verra. Bien. Alors le texte d'aujourd'hui se trouve au début, tout au début de la Bible, ou presque tout au début, c'est l'histoire d'Abel et de Caïn, Genèse 4, versets 1 à 16. Et on va voir tout ce que ce texte a à nous dire à travers aussi toute la Bible. L'homme, ou Adam, mais le texte n'utilise pas le prénom, l'homme eut des relations avec Ève, sa femme, elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai produit un homme avec le Seigneur ». Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn, cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas de regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et son visage tomba. Le Seigneur dit à Caïn, « Mais pourquoi es-tu fâché? Pourquoi ton visage tombe-t-il? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. » Caïn parla à Abel, son frère, et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors il reprit, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit, chassé de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma faute est trop grande pour être prise en charge. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché, tu ne me verras plus. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Le Seigneur dit, « Alors, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. Puis Caïn se retira de devant le Seigneur et s'installa au pays de Nod, c'est-à-dire le pays du vagabondage, à l'est d'Éden. Alors la Genèse, elle nous rapporte l'histoire ancienne du monde. Mais elle n'a pas d'abord pour but de nous décrire les procédés par lesquels notre monde a été créé. Le but premier de la Genèse, c'est de nous révéler le sens de la vie. Qui est Dieu? Quels sont le rôle et la nature des différents éléments de la création? Et en particulier de l'être humain, seule créature à l'image de Dieu. La Genèse nous explique aussi notre réalité présente. Comment, alors que Dieu avait créé toute chose bonne, l'humanité, dans la personne d'Adam, s'est laissée tenter par le serpent, c'est-à-dire Satan? Comment cette humanité a voulu s'arroger le pouvoir de Dieu et décider d'elle-même du bien et du mal? Comment cette humanité a été chassée loin du jardin d'Éden, coupée de l'arbre de la vie et du Créateur, devenant ainsi mortelle? De cet état de déchéance, eh bien, nous héritons. C'est l'humanité actuelle qui hérite de cet état de corruption, corrompu par le péché jusque dans sa volonté. L'humanité et nous-mêmes commettons toutes sortes d'actes mauvais et nous sommes incapables par nous-mêmes de chercher Dieu et nous sommes incapables par nous-mêmes de faire le bien. À la suite de ce qu'on appelle la chute, Dieu prononce des malédictions qui frappent l'humanité. Et quand il annonce au serpent, que le Nouveau Testament explicite comme étant le diable, il explique qu'il sera maudit, abaissé d'entre toutes les créatures, et dans cette malédiction prononcée sur cet ennemi, le Seigneur prédit aussi une victoire finale pour l'être humain. Et c'est ce qu'on appelle le proto-évangile, le premier évangile annoncé à la suite de la chute. Voilà ce que dit le Seigneur au chapitre 3. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. » Donc c'est surtout la fin, cette fin de prophétie, c'est ce qu'on appelle le premier évangile, la première annonce du salut accompli par Jésus. Dans le conflit entre Satan et les hommes, un descendant d'Ève va écraser la tête du diable. Mais cet écrasement de la tête du serpent se fera au prix d'une profonde blessure en retour hein, de la part de ce rejeton du serpent. C'est pour ça que le talon est blessé hein, de la même manière que la tête est écrasée. Maintenant, la tête, une tête écrasée, ça, c'est quand même plus de dégâts qu'un talon. Et c'est là qu'on voit que ce descendant d'Ève, que nous confessons comme étant Jésus, aura la victoire sur le diable en le désarmant, notamment de son arme première, qui est l'accusation, et de ses prétentions aussi de domination sur l'humanité. Mais on sait que cette victoire aura pour prix la mort ignoble de la croix qui n'est que blessure dans le plan de Dieu, puisque Jésus, parfait et innocent, ne pourra pas être retenu par la mort et qu'il va ressusciter vainqueur de celle-ci. Et c'est le cœur de l'évangile que nous fêterons dimanche prochain. Il y aura le passage par Vendredi Saint, le talon blessé, mais la victoire, nous la célébrerons à Pâques, dimanche prochain. Gloire à Dieu. Donc en prononçant ces malédictions à la suite de la chute, Dieu annonce déjà le salut et la grâce pour l'humanité. Et là, nous nous trouvons dans ce schéma, dans ce plan de Dieu, devant deux descendances, deux semences et deux humanités. Et c'est ça que nous allons regarder aujourd'hui, la première partie de cette malédiction. Il est question donc de deux semences. Il y a la semence de la femme qui aboutit à Jésus, mais qu'est-ce que c'est que cette semence ou cette descendance du serpent ? Et c'est là que la Bible nous éclaire, et l'histoire de Caïn et Abel nous éclaire. La descendance n'est pas biologiquement issue du serpent, parce qu'au fond, nous allons le voir, elle est aussi une partie de l'humanité. Elle est un aspect de l'humanité. C'est cette humanité qui sert le diable et qui est rebelle contre Dieu, qui est spirituellement la semence du serpent. Ainsi, et j'appuie mon propos au-delà d'Abel et de Caïn d'abord, dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, Jésus explique que l'humanité est partagée entre fils du royaume et fils du malin. Et il est dit des fils du royaume qu'ils ont été semés, hein, de nouveau une idée de semence, semés par l'ennemi, non les fils du malin, pardon, et par le diable, selon les évangiles, ce soit l'ennemi, soit le diable. Ils sont bien la semence du diable, ces fils du malin, en écho avec le texte de la Genèse. On dirait en français qu'ils sont la mauvaise graine, hein, ils sont de la mauvaise graine. Et puis Jésus aussi, confrontant des religieux agressifs, les traite de race de vipères. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils ont été engendrés par des vipères. Et l'allusion au serpent est aussi manifeste ici. Dans l'évangile de Jean, les pharisiens, en conflit avec Jésus, au chapitre 8, proclament que Dieu est leur père. Mais Jésus leur affirme au contraire qu'ils ont le diable pour père. Le diable qu'il appelle littéralement tueur d'êtres humains et père du mensonge. Et là, il y a une référence évidente au serpent de la Genèse qui, par ses mensonges, a amené à la mort l'humanité. Plus tard, Paul aussi dans les Actes, à Chypre, confrontant un magicien, Elimas, fils de Josué, pas le Josué de la Bible, mais voilà, il s'appelait comme ça, il confronte ce sorcier et il l'appelle parce que cet Elimas, c'est un menteur, il l'appelle fils du diable. Jean, aussi dans sa première lettre, parle des chrétiens comme étant des enfants de Dieu, des engendrés de Dieu, en contraste avec les enfants du diable. Il décrit un enfant de Dieu comme une personne qui est née de Dieu et qui a reçu la semence de Dieu en lui. Vous voyez cette thématique de la semence qui traverse la Bible et qui est bien révélée dans le Nouveau Testament. Et il parle dans ce passage, notamment Jean 3, 8 à 12, hein, il parle de Caïn, justement, quand il parle des enfants de Dieu et des enfants du diable. Et il dit que Caïn était du malin qui tua son frère. Il était du malin. C'était un enfant du malin, un fils du malin. Donc de nouveau, rapport à la chute, rapport à notre histoire. Donc les textes que nous venons de voir montrent que l'idée de descendance prononcée dans la Genèse désigne un comportement et une appartenance spirituelle et pas une idée biologique, si vous voulez, purement biologique. En fait, du point de vue biologique, les deux descendances sont humaines. Fils de la semence du diable et la semence de la femme sont la même humanité, hein, ou sont l'humanité. Voilà, c'est quand même Ève qui est la mère des vivants. Donc toute l'histoire du salut peut se lire comme une lutte entre ces deux descendances, entre ces deux tendances. Le combat entre Dieu et le diable prend une forme concrète dans l'affrontement entre une humanité attachée au mal et une humanité née de Dieu. Et plus précisément, le message de rédemption est un appel à tous les hommes qui, du fait de la chute et de leur péché, commencent leur existence en tant que fils du diable. Et nous sommes, si nous avons cru au Christ, nous sommes des personnes qui avons été des enfants du diable, la semence du serpent, jusqu'à ce que dans sa grâce, Dieu nous appelle et que son Saint-Esprit nous convainque de suivre le Christ. Donc je propose que nous lisions l'histoire de Cain et Abel à la lumière de cette double descendance, à y réfléchir par rapport à nous-mêmes. La question que ce texte va nous poser, c'est: est-ce que j'ai clairement choisi ma voie? Est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai commencé ma vie comme étant du malin? Est-ce que j'ai compris qu'il est nécessaire d'être engendré d'en haut, de naître de Dieu, comme le dit Jean, pour devenir enfant de Dieu? Et si je suis déjà un enfant de Dieu, en quoi est-ce que je me comporte encore, malheureusement, parfois, en enfant du diable? Il y a des fois des restes, hein, on attend la résurrection et la consommation des choses où nous serons débarrassés de tout ce qui en nous se refuse à Dieu. Mais en attendant, c'est un peu la bagarre, c'est bien la guerre. En quoi est-ce que, de manière sournoise, parfois, les ténèbres dont j'ai été délivré, essaye malgré tout d'imprégner ma vie, de me ramener, de me séduire? Donc nous allons maintenant lire l'histoire d'Abel et de Caïn en comparant d'abord leurs voix. Caïn, c'est le fils évident, et Abel, c'est le fils inutile du point de vue de sa maman. On va le voir ensemble. Ève, quand elle met au monde Caïn, elle pousse un cri de joie. « J'ai acquis un homme avec Dieu !» Elle utilise un verbe, « kana », qui résonne avec Caïn, qui veut dire « acquérir, faire », etc. Et sans doute, ayant entendu la promesse de victoire de sa descendance sur celle du serpent, elle peut avoir pensé que son premier fils qui arrive sera le vainqueur, que voilà, l'affaire est close. Elle ne sait pas, la pauvre, qu'il y aura quelques millénaires avant la venue de Jésus. Mais bon, pourquoi pas imaginer un accomplissement rapide, hein? Pourquoi est-ce que Dieu a pris tout ce temps-là? Ça, c'est Dieu qui sait, hein? Mais en tout cas, elle célèbre Caïn. Certains pensaient un cri d'orgueil, mais je crois non. Elle rend grâce à Dieu. J'ai fait un enfant quand même, oui, c'est juste. Et puis, avec le Seigneur, avec l'aide de Dieu. Le deuxième fils, lui, il reçoit un nom d'Abel, c'est pas très clair même dans le texte si c'est elle qui lui donne. Non, je crois pas. Non, voilà. Elle mit encore au monde Abel. Elle ne prononce aucune parole sur ce fils-là. Il s'appelle Abel. Et ça, il faut connaître l'hébreu, mais Abel, Hevel en hébreu, c'est le terme qui veut dire évanescence, buée, fumée qui s'en va. C'est le même terme que vous trouvez dans le livre philosophique de l'Ecclésiaste qui dit vanité des vanités, hein. Abel et vanité, c'est le même mot. C'est celui qui compte pas. C'est le vient ensuite, c'est le petit dernier auquel on pense pas. Entre nous, les schémas bibliques de la manière dont Dieu travaille, c'est fou ce que Dieu utilise, le petit dernier, celui, le second, celui auquel on pense pas, l'improbable. Hein, Dieu, heureusement, ça nous rassure, Dieu peut utiliser des improbables, comme nous aussi, hein, pour son plan. Et pas forcément les brillants, les beaux, les forts, les intelligents. Vous voyez, pour elle, Caïn est l'élu, alors Abel, ben, il ne sert à rien. Quoi, bon, tant mieux, c'est encore un, mais je veux dire, si le salut doit venir par le premier. Hein. Et Ève se trompe, comme l'humanité se trompe très souvent. L'homme regarde à l'éclat, à l'évidence, mais Dieu regarde au cœur, et il choisit ce que le monde méprise pour accomplir ses plans. Et Caïn est malheureusement le premier descendant du serpent, nous allons le voir spirituel, hein. Nous avons vu que Jean dit qu'il est du diable. Abel, quant à lui, est présenté par Jésus comme le premier prophète martyr. Quand Jésus parle des prophètes qui sont martyrisés, ça commence avec Abel, il dit ça commence par Abel jusqu'à Zacharie, qu'on a assassiné vers le temple. Et bien sûr, lui s'identifie à cette longue liste de prophètes martyrs, puisque lui va verser aussi son sang pour nous. Et la lettre aux Hébreux aussi, au chapitre 11, présente Abel comme le juste, le premier de la liste de ce qu'on appelle les héros de la foi, qu'on trouve dans Hébreux 11. Et de nouveau, cette liste de héros de la foi arrive jusqu'à Jésus, qui est lui appelé le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Donc Abel, vous voyez, dans la perception et dans le message de l'Évangile, c'est le premier prophète et c'est le premier martyr, c'est le premier témoin. Et puis le pauvre Abel, on n'entend aucun mot de lui dans cette histoire, mais c'est son sang qui crie. C'est son martyr qui parle pour lui. Il y a toute une chose, je ne peux pas développer, mais il y a toute une réflexion à faire sur le fait de témoigner par sa vie donnée. La différence entre Caïn et Abel, c'est la différence entre la religiosité ou la religion et la foi. Caïn offre un sacrifice que Dieu n'agrée pas. On ne sait pas comment Dieu l'a expliqué, mais bon, il l'a exprimé. Mais voilà, ce sacrifice n'est pas agréé par Dieu. La lettre aux Hébreux souligne que le sacrifice d'Abel était de plus grande valeur que celui de Caïn. Alors il y a une idée souvent fausse au sujet de ces deux sacrifices. Certains pensent que c'est la nature de l'offrande qui ferait la différence, parce qu'Abel a égorgé du bétail, alors comme on a égorgé du bétail, il y a le sang du sacrifice, donc c'est le pardon des péchés, et donc c'est le seul sacrifice que Dieu a agréé. Caïn a offert des végétaux, on n'égorge pas du blé, donc il n'y a pas de sang versé, donc c'est un moins bon sacrifice. Mais la Genèse ne parle pas de hiérarchie entre ces offrandes. Et il n'est pas question d'ailleurs de sacrifice pour le péché, mais d'offrande à Dieu. Le terme d'ailleurs utilisé est peu utilisé pour les sacrifices d'animaux. Les deux frères avaient une occupation honorable. Caïn était cultivateur comme Adam, son papa. Je veux dire, le mandat d'Adam dans le jardin, c'était de prendre soin du jardin, de le cultiver. Donc ce que Caïn fait, c'est plutôt bien par rapport, c'est même avant la chute, on faisait déjà ça. Et puis Abel, il est éleveur. Les deux présentent le fruit de leur travail à Dieu. Et Caïn ne pouvait pas présenter des animaux puisqu'il était cultivateur. Il n'avait pas présenté ce qui n'a pas été produit dans son travail. Donc c'est naturel qu'il ait produit, qu'il ait présenté ces végétaux. La lettre aux Hébreux, elle nous instruit sur ce qui a fondé le regard positif de Dieu. C'est le sujet de tout ce chapitre 11, alors ça sort. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que Caïn. Par elle, donc par la foi, il lui fut rendu témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Donc ce qui compte dans ces offrandes, ce n'est pas leur nature, que ce soit des animaux ou des végétaux, c'est l'attitude de cœur entre les deux frères qui détermine l'approbation ou non des offrandes. Et la Genèse nous en donne l'indice. Parce que qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit « Caïn offrit du fruit de la terre ». Voilà, bon, ce service minimum syndical habituel. Il a fait sa petite offrande. Tandis qu'Abel, il n'a pas juste offert du bétail, il a offert les premiers-nés avec leur graisse. Ça parle, si on connaît un peu son histoire biblique. Caïn, lui, il est religieux, il opère une transaction avec Dieu, il n'y met pas son cœur et il a sans doute un but très intéressé, et c'est pour ça qu'il est très vexé que ça ne marche pas. Abel, c'est l'homme de foi. Il donne à Dieu les premiers-nés de son élevage. Qu'est-ce que ça représente de donner les premiers-nés ? On donne les premiers agneaux, on donne les premiers veaux, les premières chèvres. Les premiers qui arrivent, c'est ceux qui nous assurent l'avenir du troupeau. Donc si je tue les premiers qui arrivent, qu'est-ce que j'en sais qu'il y en aura derrière ? Donc il y a vraiment un pas de foi et d'amour de la part d'Abel. Et puis en plus, il ne fait pas que les offrir, il met dans le sacrifice, il brûle la graisse. Et la graisse, ça représente la bonne santé, la qualité de l'animal. Donc il donne vraiment le meilleur, il confie son avenir à Dieu et il lui donne son meilleur. Abel fait confiance à Dieu, il l'aime. Et il agit de tout cœur et sans calcul. Je crois qu'il faut vraiment comprendre que, et je pense que vous le savez, mais c'est toujours bien de se le répéter, l'Évangile n'est pas une religion, la foi n'est pas un calcul, ce n'est pas un marchandage avec Dieu. Et chaque fois que nous faisons quelque chose pour le Seigneur, afin qu'il fonctionne en notre faveur, nous entrons dans la sphère de la religion et non de la foi. Je donne ma dîme pour ne pas avoir de problème financier. Je vais régulièrement à l'église pour avoir la paix dans mon cœur. Je prie et puis je lis ma Bible tous les jours pour avoir une bonne image de ce qu'est un bon chrétien, puis pouvoir dire aux autres, regardez, je suis un bon chrétien. Et donc je m'inscris bien dans la communauté, on va bien me regarder comme quelqu'un de formidable. Mais ça, c'est, et Dieu va, il y a un retour sur investissement. Ce que je fais pour Dieu, eh ben, il va me redonner en retour. Et ça, c'est la religion, ce n'est pas la foi. C'est la religion qui amène les gens à faire toutes sortes de pratiques pour s'acheter le ciel, ou pour être protégés, ou pour que Dieu les agrée. Mais la foi, elle, est désintéressée. Elle aime Dieu sans calcul et sans marchandage. Et de l'extérieur, les gestes et le fonctionnement de la personne peuvent être très semblables. Mais c'est l'attitude de cœur. Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je lis ma Bible? Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Pourquoi est-ce que je donne de l'argent? Je soutiens, j'aide des personnes. Est-ce que je le fais parce que j'aime Dieu et mon prochain? Ou est-ce que je me dis, ah, si je le fais, Dieu en retour va me récompenser? Puis la différence entre les deux hommes, c'est qu'il y en a un qui prend la vie et l'autre qui la perd. Il y a un meurtrier et il y a un martyr. Caïn, qui finalement, à la suite du rejet de son offrande, révèle le mauvais fond. Finalement, la réaction de Caïn montre dans quelle attitude il a présenté son offrande. Il est en colère parce que ça ne marche pas, parce qu'il est dans cet esprit de marchandage. Je veux dire, si quelqu'un sert le Seigneur de tout son cœur et puis que Dieu n'agrée pas, la réaction ne devrait pas être la colère, ça devrait être la remise en question, se dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait de faux? Mais explique-moi qu'est-ce qui s'est passé, pardon, désolé, est-ce que je t'ai offensé? Enseigne-moi à mieux t'aimer. Mais Caïn, lui, il est fâché, il y a de la colère, et une colère qui va très très loin. Son sacrifice, pour lui, c'est un placement, et son placement n'a pas marché. Bon, ben ça, vous avez remarqué que les placements en période de Covid, ce n'est pas non plus génial. Heureusement que ce n'est pas là que nous plaçons notre vie éternelle. Hein. Ce n'est pas dans les cours de la bourse ou même dans des obligations d'État. Hein. Et le sacrifice pour lui, voilà, c'était un enjeu de marchandage avec Dieu. Le texte dit que son visage est baissé. Alors vos Bibles disent qu'il est renfrogné, etc. C'est bête parce qu'il y a tout un jeu de mots au sujet du visage entre l'attitude de Caïn et ce que Dieu lui dit. Mais il baisse les yeux, il regarde par terre parce qu'il n'est pas levé vers Dieu. Dans sa colère, il ne se tourne pas vers Dieu d'ailleurs. Remarquez que ce n'est pas lui qui cherche Dieu, c'est Dieu qui va le chercher. Et c'est lui qui prend l'initiative. Et il l'interroge sur sa colère, il l'appelle à changer d'attitude. Et c'est la première fois, quand Dieu dit le péché est tapé à ta porte, c'est la première fois que la Bible parle de péché, de la notion de péché. Bon, il y a déjà eu la chute, mais là c'est vraiment dit le péché. Mais Caïn ne répond pas à Dieu, donc Dieu parle dans ce système. Tout d'abord, Dieu parle et Caïn ne parle pas. Ça, c'est important dans la Bible, hein, de voir quand les gens ne parlent pas ou quand Dieu ne parle pas et quand il parle. Ça, c'est très important quand on lit une histoire. Il n'y a pas besoin de savoir l'hébreu. Hein. Il faut juste regarder un texte. Mais pourquoi, hein, pourquoi? Ben, Caïn, là, il ne parle pas. Et il est dans cette colère intérieure, et même extérieurement montrée. Et il ne se repent pas, il n'y a rien chez Caïn qui dit au Seigneur, ah ouais, il y a le péché, ben ouais, je dois dominer sur lui, donne-moi les forces, je ne sais pas, hein. Rien, rien. Jésus, dans son sermon sur la montagne, relie ce type de colère au meurtre. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Jésus ne dit pas qu'on ne doit jamais se mettre en colère, il y a des endroits où on peut être en colère, mais une colère contre quelqu'un, une colère dirigé contre quelqu'un, c'est la racine de la violence et du meurtre. Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Abel. Alors il y a des manuscrits et surtout une ancienne traduction grecque qui raconte ce qu'il lui dit, mais bon, il parle à Abel, il l'emmène à la campagne. Et pourquoi est-ce qu'il l'emmène à la campagne? Ben, il est loin de la maison. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman pour le regarder. Il n'y a pas Ève pour voir ce qu'il fait. Il n'y a pas Adam dont on ne parle qu'au tout début de cette histoire. Hein? Et donc, il a vraiment calculé son coup. Il a amené son frère dans un endroit désert, et là, il peut le tuer. Il le tue. C'est le premier meurtre, le premier assassinat, on va dire un meurtre avec préméditation quand même, a priori, avec ce déplacement dans la campagne, il y a une intention hein, qui est menée jusqu'à son terme. Et donc, il y a l'irruption terrible, après la chute, de la violence au sein de l'humanité. Et c'est pour ça que Caïn est là, fils spirituel du diable. Le diable, ce tueur d'êtres humains, finalement, a un être humain qui suit ses voies et qui tue un autre humain, et pas n'importe quel humain, son propre frère. Bon, ça, c'est courant dans l'humanité. Vous savez que la majorité des meurtres et des crimes se passent dans la famille. C'est statistique. Donc, voilà, quand on dit « je crois à la famille », il faut juste mettre un petit bémol en disant que le péché vient souvent semer beaucoup de choses terribles entre les gens. Colère meurtrière parce que Caïn refuse de voir le mal qui est en lui. Il est jaloux de son frère qui a réussi. Et donc là aussi, l'esprit de la religion est à l'œuvre. Les sacrifices sont pour Caïn, finalement, entre lui et son frère, un concours. Ça a marché pour Abel, alors il est mauvais perdant. Il est mauvais perdant et il se venge sur le vainqueur. Je veux dire, c'est terrible, hein, mais bon. On sait qu'en tant que chrétien, des fois, il y a une espèce de course, hein. Une course à la sanctification, course à la performance, et puis on regarde l'autre, et puis on se trouve mieux ou moins bien. Il ne faut pas se comparer. Il faut se trouver en Christ. Il faut se trouver en Dieu. Jude, dans sa petite lettre, évoque le conflit entre les adeptes de la religion et les vrais croyants, et il dit de ces gens, notamment, ennemis de l'Évangile, qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Donc il y a toujours ce conflit, hein, entre religion et foi. Abel, lui, n'a rien gagné à vue humaine. Son sacrifice agréé ne l'a pas protégé d'une mort violente. Donc l'idée d'un sacrifice pour être protégé, ça ne marche pas tout à fait dans son cas. Si on regarde Abel du point de vue de Caïn, on dira « Ah ah, ben vous voyez, Dieu n'a pas fonctionné. Il n'a pas réussi à faire fonctionner Dieu. » Oui, mais justement, Dieu, on ne le fait pas fonctionner. C'est juste ça le problème. Hein. Et Abel, lui, est injuste. Et sa mort injuste, violente, fait de lui le premier martyr de l'histoire, le premier héros de la foi. Il annonce Jésus, qui, comme lui, sera agréé par Dieu, sera jalousé, rejeté, et mourra assassiné, sans laisser derrière lui d'enfant. Abel n'a pas parlé, on a vu, mais c'est sa foi qui parle. Les Hébreux disent que sa foi parle. Et son sang aussi crie du sol où il a été versé. Donc Abel, même sans ouvrir la bouche, par sa propre vie, manifeste la vraie foi. Alors réfléchissons à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes parfois animés de l'orgueil et de la colère de Caïn? Quel est notre rapport à la violence? Est-ce que face à des situations difficiles, nous pensons que le recours à la violence est une solution? Ou est-ce que trop facilement nous approuvons l'usage de la violence pour régler les problèmes de l'humanité? C'est pourtant ce que le monde nous enseigne massivement. On essaye de nous faire comprendre que l'usage de la violence, c'est quand même pas mal pour s'en sortir. Et l'exemple d'Abel, est-ce qu'il nous parle? Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu, même si notre santé ou notre vie ne se développe pas selon les critères de réussite et de bonheur humains? Même si tout donne l'impression de stérilité et de vanité, est-ce que nous restons fidèles à Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu pour lui-même? Est-ce que tu aimes Dieu pour Dieu ou pour ses bienfaits? Et si Dieu nous prive de certains bienfaits ou ne nous les accorde pas tout de suite, est-ce que notre foi reste ferme? Et vous savez, nous sommes dans la vie, Dieu va nous faire passer par le creuset de l'épreuve pour justement nous renforcer dans notre attachement à lui. Alors le diable nous tente pour nous faire tomber, et des fois avec la même épreuve, Dieu nous éprouve pour nous rendre plus fidèles ou nous ramener. Peut-être des fois, vous savez, on vit des dépouillements, hein, cette période de Covid, on a plein de choses qui nous sont enlevées, y compris dans la vie communautaire, des choses qu'on aimerait. On aimerait se faire des hugs, hein, et serrer la main, hein, entre hommes, etc. Et on ne peut pas, et on est privé de ça. On a la chance d'être encore un peu en 3D ici, corporellement, mais je veux dire, on est très frustrés de tout cela, mais en même temps, ces frustrations, est-ce qu'elles nous dépouillent un petit peu, pas de certains aspects qui nous forcent encore plus à nous attacher à Dieu, nous accrocher à lui, parce que nous ne pouvons pas tout vivre comme nous le voudrions. On va voir la suite de l'histoire de Caïn. J'espère que je n'ai pas fait exploser le compteur, ça va? Je ne vais pas regarder ma montre. Vous êtes encore en vie, hein, ça marche? Bon, alors voilà. Ce sera votre épreuve, voilà. Je vous dépouille de votre rôti du dimanche, non, j'espère pas. Maintenant qu'Abel est mort, on a encore la suite du parcours de Caïn qui vient nous parler. Et on va se concentrer sur lui comme contre-exemple. Donc, après la mort d'Abel, l'assassinat d'Abel, le Seigneur interroge Caïn. Et la réponse de Caïn est un mensonge. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? En plus, c'est très arrogant. Il rejette à Dieu, finalement, le fait de garder son frère. Il ne dit pas, c'est à toi de garder mon frère. Il me dit, mais tu ne m'as jamais donné cette responsabilité. Vous voyez, il est dans le minimum syndical. Hein, donc, on ne lui a pas mis ça dans le contrat, donc ça ne fait pas partie. Hein. Et c'est terrible, parce que même quand Dieu lui dit, mais le confronte à son crime et le maudit, la terre ensanglantée va lui résister, il ne pourra plus être cultivateur, il va devenir vagabond, errant dans le monde. Malgré les évidences de son crime, qu'il reconnaît, parce qu'il ne peut pas faire autrement, Caïn ne se repent pas. La seule chose qu'il demande à Dieu, mais de nouveau, c'est logique si on est religieux, c'est d'être protégé des conséquences de son péché. Pour lui, Dieu, c'est un Dieu qui doit lui faire du bien et le protéger. Voilà. Ce n'est pas que Dieu ne nous fasse pas du bien, ne nous protège pas, hein, ce n'est pas la question, mais pour lui, c'est le centre, hein, bien plus que Dieu. Et on voit qu'il n'évolue pas du tout dans sa pensée. Dieu doit fonctionner et servir ses intérêts. Et le Seigneur place dans toute sa grâce un signe sur Caïn pour que les autres hommes ne le tuent pas. Et ça, c'est beau de la part de Dieu. On le voit aussi après la chute. Hein. C'est lui qui va vite tuer quelques animaux pour faire des habits un peu plus valables que quelques feuilles de figuier qui vont sécher dans les deux jours et qui ne tiennent pas au corps, hein, pour pauvres Adam et pauvres Ève qui ont découvert qu'ils étaient tout nus. Et puis dans ses sanctions, il annonce la victoire. Donc Dieu, même quand on se loupe, même quand on fait une belle sortie de route, il nous entoure de sa grâce, parce que Dieu est bienveillant. Et dans sa bienveillance, il nous appelle à lui. Dieu a une providence qui est un appel à la fois. Les belles choses de la vie dont nous goûtons encore et dont nous devons nous réjouir devraient nous attirer à lui. Mais Caïn ne répond pas à cet appel de Dieu. Il sort de la présence de Dieu. Il quitte la région d'Éden, qui était la terre promise, qui couvre entre autres la terre promise. Hein. C'est intéressant, la région d'Éden couvre en partie, quoi, totalement, mais c'est plus grand que ça, la terre promise, la terre d'Israël. Il part. Adam et Ève sont chassés à l'est du jardin qui est au milieu d'Éden. Hein. Donc déjà, ils sont chassés à l'est un coup, mais ils restent en Éden, dans cette grande région. Et puis Caïn, lui, carrément, il quitte cette région d'Éden et il part à l'est. Caïn reste un homme mauvais, séparé de Dieu. Mais Dieu lui permet de vivre, d'avoir des enfants, alors que Abel n'a pas eu ce bonheur-là. Ça peut être choquant de voir le Seigneur ne pas sanctionner le mal à la mesure des actes commis. Il aurait pu quand même tout de suite ôter la vie de Caïn. Mais Caïn, ça nous parle de l'humanité, une humanité qui vagabonde loin de son Créateur, d'une humanité qui ne veut pas changer de voie, mais d'un Dieu qui est patient. Un Dieu qui retient le juste jugement de cette méchanceté humaine. Et ça a été notre salut entre nous. C'est notre salut que Dieu soit patient avec nous et qu'il laisse le temps, la possibilité de changer de voie, de revenir, de mettre sa foi en Christ. C'est vraiment cette providence, cette bonté de Dieu, c'est vraiment un appel à nous détourner du mal et à retrouver le chemin du Seigneur. Dieu est patient avec nous. Aujourd'hui encore, la porte du salut est ouverte à quiconque veut la franchir. Et même si nous sommes déjà des enfants de Dieu, alors que nous étions auparavant des enfants du diable, nous savons trop souvent qu'encore nous avons en nous des désirs et des attitudes qui tiennent plus de Caïn que d'Abel. Et le Seigneur nous appelle toujours à lui, à ne pas vagabonder à l'est de l'Éden, à l'est de la terre promise, en dehors de la sphère de sa présence. Alors, à quelle descendance appartenons-nous? Quel camp choisissons-nous? Jésus appelle tous les Caïn à changer d'attitude, à quitter la religiosité, à quitter la violence, à quitter le mensonge, à quitter cet orgueil et cette impénitence qui les condamne. Vous savez, le principal problème de l'être humain, c'est une manière de penser, c'est pas le péché, c'est l'impénitence. Le péché, nous péchons tous. Soit parce que nous ne faisons pas le bien que nous devrions faire, parce qu'il y a tous les péchés d'omission, il ne faut jamais oublier cela. Tout le bien que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait, Le mal que je commets, que je pense, que je dis, voilà, il y a les péchés, mais tout ça, en Christ, on peut en trouver le pardon et la grâce, à condition de ne pas être impénitent. Et j'ai vu des chrétiens s'égarer, alors qu'il semblait, ce n'étaient pas des gens qui avaient tué père ou mère, ou volé, ou je ne sais pas quoi, mais ils refusaient simplement cette démarche de reconnaître sa faute et de recevoir la grâce et de la demander. Le Seigneur appelle les vagabonds du monde à retrouver le chemin d'Éden. Et nous savons que la Nouvelle Jérusalem viendra un jour. Et vous savez, regardez à la fin de l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, il y a de nouveau l'arbre de la vie. On restaure et on dépasse l'Éden premier. Ça, c'est vraiment la Bible. Hein. On commence avec Éden, on finit avec une cité de Dieu qui ressemble au jardin d'Éden en plus, hein, extraordinaire. Et donc, nous sommes appelés à retrouver le chemin du paradis de Dieu, du jardin de Dieu. Paradise, c'est un nom perse pour le jardin. Et à trouver Jésus qui nous fait grâce. De peur, c'est ça l'appel de Dieu. Il faut retrouver ce chemin, de peur que cette errance d'aujourd'hui ne devienne une errance éternelle. Et là, ça c'est la vérité. Nous serons servis à la mesure de ce que nous aurons répondu à Dieu. Et c'est un appel à la fois plein d'amour, hein, mais il y a un avertissement. Hein, on ne joue pas. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu religieux, vous voyez. Voilà, je propose qu'on prie. Seigneur, nous te bénissons pour cet exemple de Caïn et Abel qui traverse la Bible. Nous sommes conscients, nous découvrons ce conflit qu'il y a entre la descendance du serpent et la descendance de la femme et des enfants de Dieu. Et Seigneur, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que tu nous révèles comme à nouveau combien tu nous appelles à toi et nous voulons comme à nouveau te dire, je veux te dire moi-même, Seigneur, pardonne en moi tout ce qui tient encore de Caïn, de cette espèce de calcul, de religiosité, qui se transforme si souvent en conflit, en jalousie, en haine, en violence. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous cédons encore à ces appels d'une nature qui est encore partiellement corrompue par le mal. Et Seigneur, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous saisissions l'occasion aujourd'hui, déjà aujourd'hui, jour de la grâce, de saisir le salut, de recevoir Jésus comme notre Sauveur. Seigneur, si nous t'appartenons, nous te demandons vraiment que ton Saint-Esprit remplisse notre être pour que nous te servions par amour, que ce que nous faisons pour toi, nous le fassions avec joie, sans calcul, même s'il n'y a pas un retour immédiat sur investissement, même si tu ne fonctionnes pas selon nos calculs et nos attentes. Seigneur, nous voulons t'aimer librement, en homme et en femme libre, libéré par Jésus, rendu pur et sans tache, grâce au sang de l'agneau versé à la croix. Merci Seigneur de te révéler encore à nous. Merci pour cette parole de Dieu que tu nous as laissée, qui nous parle, qui fonde notre foi, qui nous ancre dans la vérité et dans la joie du salut. Amen. Voilà, est-ce que je présente tout de suite le petit PowerPoint alors? Ah ben voilà, oh, c'est formidable, voilà, j'espère que ça va marcher. Donc HET Pro. Haute école de théologie, alors je ne sais jamais dans quelle ordre, je crois que c'est protestante, professante, professionnalisante, voilà.
Merci beaucoup pour le message que vous nous avez apporté. Actuellement, pour l'offrande, on a les troncs à l'entrée de l'église, faites-en bon accueil. Et nous arrivons bientôt au terme de ce culte. Pour la semaine prochaine, nous avons l'immense privilège de fêter Pâques. Et à cette occasion, pour célébrer cette fête, nous accueillons le groupe de louanges qui reprend du service créatif et qui sera dirigé par Vanessa Roulet. Francesco aura la présidence et c'est Daniela qui nous apportera le message. J'invite mon papa à venir sur scène pour une annonce et une petite anecdote encourageante.
Bonjour tout le monde. Ça va? Vous avez de quoi méditer la semaine prochaine, hein? On a entendu beaucoup de choses. Merci à Robin. C'était très édifiant, en tout cas pour moi. Merci beaucoup pour ce message. Merci à ma fille aussi. Merci à Daniela. Deux choses de mon côté. Qui dit mars, avril, dit période des assemblées générales. Actuellement, on est un petit peu mal barré pour faire des assemblées générales. Néanmoins, le Conseil se penche actuellement sur la manière la plus pertinente d'organiser notre Assemblée générale 2021. Par ces temps difficiles de pandémie, le Conseil est appelé à faire preuve de créativité. Nous vous informerons de la date et de la procédure de déroulement de l'Assemblée générale tout prochainement. Un autre événement qui nous tient particulièrement à cœur, c'est les festivités du centième, prévues cette année au mois de juin. Là aussi, on est un petit peu mal barré. On devra très certainement reporter tout ça, mais rassurez-vous, le groupe de travail, entre autres mené par Christelle, travaille d'arrache-pied, se retrouve régulièrement pour être prêt le jour J. Là aussi, nous vous tiendrons informés de la suite des événements. C'est vrai que Covid ne nous arrange pas vraiment, mais nous l'avons aussi entendu de Robin. Restons positifs. Et le réseau évangélique nous rappelle, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec toutes les décisions prises par nos autorités, c'est de ne pas glisser dans une espèce de rébellion ou critique de nos autorités. Laissons-nous apaiser par la paix de Dieu, par Christ, et continuons de faire de notre mieux pour demeurer dans un état d'esprit positif, marqué par son amour. Finalement, ça va le faire. Et maintenant, encore une petite anecdote de la semaine passée. J'espère que ça encouragera beaucoup de monde. Ça vous est déjà arrivé de perdre votre porte-monnaie? Ça ne le fait pas. Alors, la semaine passée, juste avant la séance du conseil, un petit peu à la dernière, je me précipite dans la voiture. Et puis, juste une pensée me traverse mon porte-monnaie. Je me suis dit, oh, il est quelque part dans la voiture, il est quelque part à la maison, dans mes pantalons de travail. Séance du conseil, j'ai plus pensé à mon porte-monnaie. Heureusement, d'ailleurs. J'arrive à la maison, je me dis, ah oui, mon porte-monnaie. Alors, comme on est, on fait le tour de la maison, on va dans le pantalon, on va dans la voiture, on prend la lampe de poche, on va sous les sièges. Rien, nenni. « Chérie, t'as vu mon porte-monnaie ?» En général, les dames arrivent mieux à trouver que les hommes. J'ai même été au congélateur, parce que je me rappelais qu'au congélateur, j'avais sorti de la viande, pas de porte-monnaie. Je me dis « purée, mais il doit être dans la voiture. » Et bien sûr, au bout d'un moment, tu dis « Seigneur, là, il faut que tu m'aides, quoi. J'ai besoin de mon porte-monnaie, les cartes de crédit, etc. » Vous connaissez tout ça. Je retourne dans la voiture, je regarde 3 fois, 4 fois, rien. Je me dis, ah, t'as mis un outil dans le coffre, t'as ouvert le coffre de mon pick-up, donc. Je regarde, rien. Je referme, je vais dedans, toujours rien. Pour la énième fois, je retourne dans ma voiture, j'ouvre le coffre, toujours rien. Je ferme le coffre. Et que vois-je? Mon porte-monnaie posé sur le pare-choc. Jusque-là, ok, ça va encore. C'est déjà un miracle que je l'ai trouvé. Mais Dieu, il avait déjà prévu un autre miracle avant. Entre-temps, il faut savoir que j'ai pris la voiture, je suis venu au conseil, depuis chez moi, ça descend, et en remontant, il y a des virages, ça tourne. Donc mon porte-monnaie est resté sur le pare-choc, des courterets jusqu'à l'église et retour. Et pendant 2 heures, elle était devant l'église, donc voilà, heureusement qu'il faisait nuit, à la vue de tout le monde. Donc quel miracle d'avoir retrouvé mon porte-monnaie. Donc Dieu, il voit les choses, il connaît nos cœurs, il connaît nos besoins, et gloire à Dieu. C'est une petite chose dans la vie, à porte-monnaie, il y a des choses tellement plus graves, plus importantes, mais Dieu aide aussi dans les petites choses. J'espère que ça vous encourage à faire confiance en Dieu.
Voilà, merci beaucoup. Et pour la fin du culte, je vous rappelle d'aller rapidement chercher vos enfants pour libérer les monitrices et les moniteurs. Pour les mesures sanitaires, à partir de maintenant, c'est 10 à l'intérieur et 15 à l'extérieur, tout en gardant les distances. Et j'invite Daniela à venir sur scène.
Moi, j'ai aussi une petite annonce à vous faire. Vous avez vu, le papa, il est vraiment fier, hein ? Eh bien, moi, je peux vous dire que moi aussi. Aujourd'hui, nous avons eu la plus jeune des présidentes du culte qui a présidé le culte. Elle a fait ça vraiment, je trouve, super bien. Je vous propose de l'applaudir parce qu'elle a fait un super job.
Merci beaucoup et je vous invite à vous lever pour la prière d'envoi. Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Amen. Bonne semaine et bon dimanche à tous.